Et vous êtes toujours avec nous sur Bac FM 106.1. On va parler cinéma aujourd'hui. Vous le savez, c'est mercredi, c'est le jour des sorties cinéma. Les jours où on parle de cinéma indépendant avec Michel Petit-Fontanelle, secrétaire adjointe chargée de coordonner le choix des films pour l'ACNÉ. Bonjour Michel.
Bonjour.
Aujourd'hui, semaine spéciale pour l'ACNÉ puisque c'est le festival Télérama. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler ?
Alors bonjour à tous. Donc le festival Télérama est toujours un moment important dans l'année parce qu'il permet de revoir une partie des meilleurs films sortis en 2025. Alors pour aller voir les films au tarif de 4 €, il faut que vous achetiez Télérama et que vous découpiez le bon qui est valable pour 2 personnes. Mais si vous pouvez y aller aussi sans cela, mais bon, ça sera un peu plus cher. Voilà, donc nous avons sélectionné surtout des films qui ne sont pas passés à Nevers. Alors, le premier, c'est la trilogie d'Oslo qui s'appelle Amour. Il y avait 3 films. C'est un film norvégien. Ça se passe sur un ferry qui ramène à Oslo Marianne, médecin, et son collègue infirmier dans l'hôpital où elle exerce. Alors, c'est un très beau film qui parle de l'amour en toute simplicité. On a l'impression d'être avec des copains. Le suivant, c'est Mémoire d'un escargot, un film australien, un très beau film d'animation aussi qui est proposé aux Oscars. À la mort de son père, la vie heureuse et marginale de Grace, collectionneuse d'escargots et passionnée de lecture, vole en éclats. Je vous résume succinctement parce que vu le nombre de films...
Il y en a beaucoup, oui.
Voilà. Ensuite, c'est Nouvelle Vague, un film français. C'est l'histoire de Godard tournant à bout de souffle, racontée dans le style et l'esprit de Godard. Il y a de l'humour, c'est pas du tout prise de tête.
Un beau film hommage à Jean-Luc Godard.
Voilà. Après, Black Dog. Alors celui-là, je vous le conseille vraiment. C'est un film chinois. Ça se passe aux portes du désert de Gobi. Alors, c'est comme un western qui démarre très fort avec des chiens. Lang travaille pour la patrouille locale chargée de débarrasser la ville des chiens errants, mais il se lie d'amitié avec l'un d'entre eux. Il a eu le prix Un certain regard. Ensuite, Nino, encore un film français. Nino, on lui apprend qu'il est malade et donc on voit après sa vie et ça n'a rien, absolument rien de triste. C'est vraiment très beau et l'acteur est remarquable. Ensuite, nous avons « Je suis toujours là », un film brésilien qui est proposé aussi aux Oscars. Ça se passe à Rio sous la dictature militaire. La grande maison des Paiva, près de la plage, est un havre de vie jusqu'au jour où des hommes du régime viennent arrêter Rubens, le père de famille qui disparaît sans laisser de traces. C'est une histoire vraie. Et donc, nous avons après remis la Palme d'Or, pour ceux qui l'auraient raté, Un simple accident, un film iranien. Voilà, c'est un homme qui croise par hasard celui qu'il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s'installe. C'est aussi un beau film où il se passe plein de choses.
Un sacré thriller, oui, tout à fait.
Alors ensuite, nous avons le coup de cœur des moins de 26 ans. Donc ça, ce n'est pas nous qui avons choisi, qui est une bataille après l'autre, pour ceux qui ne l'ont pas vu, avec des acteurs très connus. C'est un ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob, qui vit en marge de la société avec sa fille Willa. Quand elle disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver. À noter que ce film a été le premier film retenu par le magazine de cinéma pour le meilleur film de l'année.
Et vous parlez d'acteurs très connus, une bataille après l'autre. One Battle After Another est interprété notamment dans son rôle principal par le grand Leonardo DiCaprio et c'est réalisé par PTA Paul Thomas Anderson.
Oui là ! Oui là ! C'est moi, oui là ! Faut que je trouve ma fille. Il va falloir que je te le dise combien de fois. Faut que je te dise, la mère de Willa et moi, on a foutu un sacré merdier.
Mon père avait dit d'elle que c'était une héroïne.
Willa !
T'es dans une situation perdante-perdante, ou peut-être que tu peux sauver ta peau.
Je te promets que je vais te retrouver et que je te collerai un gros bâton de dynamite dans ton...
Passons aux choses sérieuses.
Si tu peux sauver la gosse.
En route !
Avec Leonardo DiCaprio.
Comment ? Comment ça peut prendre autant de temps, bordel à cul? Vous êtes qu'une bande de bras cassés.
Une bataille après l'autre, au cinéma le 24 septembre.
Je vois qu'il y a des avant-premières, ouais.
Voilà, alors nous avons une avant-première. Alors là, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un débat après. Alors ça se passe le dimanche 25 à 16h. C'est à pied d'œuvre de Valérie Donzelli, avec notamment Bastien Bouillon, que l'on voit de plus en plus souvent au cinéma. Et donc, on va être en direct après le film avec Paris, où il y aura Valérie Donzelli et Bastien Bouillon qui répondront à des questions de journalistes de cinéma. Et donc, on pourra bénéficier à Nevers de ce débat.
Bastien Bouillon, effectivement, qu'on commence à voir partout, et c'est tant mieux.
Écoute, Paul, tes livres ont un vrai succès d'estime. Mais on va pas se mentir, les ventes sont décevantes. Moi, aujourd'hui, j'attends de toi ton grand roman.
Et tes enfants, ça va? Ça te dérange pas qu'ils partent si loin?
Ce n'est pas la misère, mais on commence à en avoir une vue bien dégagée.
Je suis prêt à accepter n'importe quel boulot, mais j'aurais besoin de temps à moi pour écrire.
Vous voulez un travail qui vous laisse du temps?
Mais vous faites ça depuis longtemps?
Pas vraiment.
Ah ouais, parce que vous avez pas trop la tête à faire ça.
Gare du Nord?
Paul, qu'est-ce que tu fais dans cette voiture?
Ah, je travaille.
Non mais je rêve. Un boulot mal payé comme un esclave.
Tu sais, à notre époque, il y a des esclaves très bien payés.
Je comprends pas pourquoi tu t'entêtes à faire ces boulots de merde.
C'est peut-être le prix de ma liberté. C'est au moment où j'ai épuisé mes économies, sans espoir immédiat de les renouveler, que j'ai pris conscience que je devenais pauvre.
Paul, t'es pas un vrai pauvre.
Pourquoi t'écrirais pas un truc qui marche?
C'est votre métier, le bricolage?
T'es complètement taré.
J'ai une bémol. Vous avez pas trop la tête à faire ça.
N'importe quoi d'autre.
Espoir. Comment t'en es arrivé là?
J'ai pas envie que tu finisses à la rue, comme un clochard.
Beaucoup de films cette semaine, vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de programmation, en tout cas cinéma pour vous les cinéphiles. Petite question, Michel, ces films ils sont proposés en VOST, en VF?
Ils sont proposés en VO pour tous les films étrangers. Et par contre, il va y avoir un flyer. Et donc, il va être bientôt disponible au cinéma Zarin. Parce qu'attention aux horaires, comme il y a beaucoup de films, c'est des horaires spéciaux. Hein. Donc, ça sera aussi sur le site, bien sûr. Mais faites attention parce que les films, ils passent en général 3 fois. Donc, il faut bien regarder. Quoi.
Et merci beaucoup, Michel Petit-Fontanel, d'avoir répondu à mes questions. Le rendez-vous avec l'acné, c'est tous les mercredis. Et restez avec nous, chers auditeurs, puisque dans quelques instants, je reçois Dany Naba pour parler d'intelligence artificielle, un sujet qui, ô combien, inquiète le monde du cinéma. Chers auditeurs, utilisez-vous l'IA? Si c'est le cas, vous êtes comme 40% des Français. À l'heure où l'arrivée de cette technologie est considérée comme l'un des plus grands changements depuis Internet, Bac FM tenait à inviter un spécialiste pour parler de tout ça. Bonjour Dany Bala.
Bonjour.
Vous êtes un des responsables de la convention qui aura lieu le 22 janvier 2026 à l'Incube sur l'IA et les 50 règles éthiques que propose l'Observatoire de l'éthique publique à ce sujet. Pour poser un petit peu le décor, est-ce que vous pouvez présenter ce qui aura lieu le 22 janvier?
Alors, oui, tout à fait. Bon, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir invité dans cette émission. Alors, pour répondre à votre question, c'est effectivement un programme qui se tiendra le 22, dans la matinée, qui devra commencer à 10h et se terminer à midi. Donc, grosso modo, on a finalement, dans un premier temps, un retour sur ce qui a été dit à l'occasion des Assises du numérique qui se sont tenues en 2025, et terminer finalement sur ce que j'appellerais une ouverture, faire finalement quelques éléments d'introduction à ce deuxième épisode des Assises qui, lui, portera plutôt sur la cybersécurité.
L'Observatoire de l'éthique, je ne suis pas sûr que ça parle à tous nos auditeurs et auditrices. Quelle est sa légitimité, en fait, pour parler d'intelligence artificielle?
Alors, bon, déjà, il faut savoir qu'il inclut en son sein, finalement, des équipes qui sont interdisciplinaires. Donc, on a vraiment de tout. On a des juristes, on a des philosophes et on a même des acteurs qui, eux, sont essentiellement issus des sciences dures. Et je dirais peut-être que la légitimité, finalement, provient du caractère englobant, si je puis dire, des enjeux qui découlent de l'IA, dans le sens où, finalement, comme vous le savez très bien, ces technologies nous affectent tous. Dans le sens où il m'affecte moi en tant que juriste, tout comme il vous affecte vous en tant que journaliste. Et c'est justement en raison de ce caractère, je dirais, global des enjeux que chacun aura de toute façon quelque chose à dire, qu'il s'agisse d'un informaticien ou d'un juriste qui, lui, aura une approche juridique ou peut-être d'un philosophe qui, lui, va réfléchir autrement. Et c'était aussi, je dirais, le côté très intéressant des assises et aussi également des échanges qu'on retrouve au sein de l'OEP.
Donc en fait, ça va être une journée où on va parler de ces fameuses 50 propositions pour rendre l'intelligence artificielle plus éthique.
Absolument.
À l'heure où l'IA pose de nombreux problèmes éthiques et moraux, d'ailleurs on n'a pas attendu 2026 hein, pour que ça soit le cas, on parle de problèmes écologiques, on parle de sexisme, je pense au récent scandale via X, anciennement Twitter, vous n'avez pas pu passer à côté. Oui. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu en retard sur la question pour réglementer?
Toujours. Je dirais toujours dans le sens où vous êtes conscient du fait, tout comme moi, que les technologies évoluent très vite. Elles évoluent très vite, ce qui fait que, notamment nous autres juristes, on peine finalement à rattraper le retard en termes de régulation, dans le sens où les idées sont là, les réflexions peuvent être très poussées, mais maintenant, pour ce qui concerne les aspects institutionnels, la manière dont on régule tout ça, il y a toujours un petit délai. Mais c'est déjà très bien de pouvoir identifier les problèmes de telle manière aussi à rendre les choses plus explicites et accessibles à tous du mieux qu'on peut.
Donc vous êtes juriste de profession ?
De formation.
De formation.
Je prends ma deuxième année de doctorat sous la direction de Monsieur Raphaël Morel à l'Université Bourgogne-Europe.
Donc j'évoquais le scandale avec X récemment. On sait que de nombreuses femmes postant des photos d'elles très simplement se sont fait déshabiller par l'IA Grok, l'intelligence du milliardaire d'extrême droite d'Elon Musk. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'agression sexuelle numérique? C'est quoi les mots à employer?
Il y a plusieurs éléments qui, à mon sens, peuvent être évoqués. Si je puis dire, juridiquement, il y a déjà une première atteinte qui concerne clairement l'atteinte à tout ce qui relève de la dignité, de la vie privée, notamment. Peut-être parler d'agression comme présenté tout à l'heure juridiquement parlant, ça renvoie vraiment à un cas de figure un peu distinct, si je puis dire, physiquement parlant. Donc je ne sais pas si on pourra dans le futur démocratiser ce terme dans ce contexte, mais toujours est-il que l'impact est tout aussi grave et très similaire, si vous voulez, dans les implications que ça engendre pour les personnes affectées, bien évidemment.
Sera proposé le 22 un livre blanc, donc 50 propositions, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous voulez en citer quelques-unes, je dirais les mesures phares peut-être?
Écoutez, dans les mesures phares, par exemple, je peux me référer à l'atelier au sein duquel j'ai eu l'occasion de prendre quelques notes et résumer les réflexions et aussi les propositions qui sont ressorties. Alors bon, je vais vous donner l'enjeu associé et ensuite, bien évidemment, la proposition associée pour que ça soit plus logique. Alors, dans l'atelier auquel j'ai assisté, un des enjeux, c'était celui des craintes qui découlent du remplacement des postes qui existent au sein des entreprises pour les travailleurs par le processus d'automatisation engendré par le système d'IA. Et une des propositions phares, si je puis dire, derrière, c'était un recours finalement au droit existant, dans la mesure où dans le droit existant, on a un certain nombre de règles qui permet aux employés, notamment, de bénéficier de formation, de telle manière à s'adapter à plusieurs changements au sein de l'entreprise, notamment des considérations technologiques, dont finalement ces systèmes d'IA ici, accompagner donc finalement les employés, les travailleurs, de telle manière à justement maîtriser ces outils d'IA, et ainsi continuer à garder leur poste qui, bien sûr, évoluerait, mais, si je puis dire, ne se retrouverait pas en licenciement au motif d'une incapacité à continuer à exercer leurs activités au regard du recours plus croissant au système d'IA. Donc vraiment l'idée d'accompagner les travailleurs de telle manière à ce qu'ils puissent eux aussi s'adapter aux nouveaux enjeux liés à ces systèmes d'IA.
Ah mais ça c'est la version optimiste des choses. Je crois que c'est Le Monde qui parlait il y a quelques jours de l'IA qui arrive de plus en plus à France Travail et les employés sont déboussolés. On parle de dépossession de travail, voire de premiers signes déjà de dépression par peur de perdre son emploi. Est-ce que c'est pas un peu optimiste de se dire bon bah voilà, on va former les gens pour qu'ils utilisent l'outil qui peut-être va finir par les mettre au chômage?
Écoutez, ça dépend du type d'outil dont vous parlez. Effectivement, ça dépend des outils dont vous parlez. Il y a le problème, si vous voulez, dans ce genre de débat, c'est qu'il y a un extrême à un autre, si je puis dire. On a d'un côté une vision assez alarmiste, si je puis dire, et de l'autre, une vision trop optimiste. Et à mon sens, hein, je pense qu'on devrait plutôt adopter une approche nuancée dans le sens où, et vous l'avez cité à juste titre, hein, il y a des craintes qui sont justifiées et avérées, qui plus est, puisqu'il y a certains outils qui peuvent justement interroger sur le futur de certains. Mais dans d'autres cas de figure, il faut bien comprendre que certains systèmes d'IA, quant à eux, au contraire, sont utiles, non pas parce que, si je puis dire, intellectuellement, on serait peut-être appauvri, mais parce qu'ils nous font simplement gagner du temps. Et donc, tout l'enjeu ici, c'est sur ces outils qui sont clairement identifiés, qui, eux, aident plutôt peut-être à la prise de décision ou peut-être à la réalisation d'un travail en un temps record, il faudrait, bien évidemment, que chacun puisse être au fait des manips, des techniques nécessaires pour une bonne utilisation de ces outils et ainsi accompagner, comme je le disais tout à l'heure, ces travailleurs dans la réalisation de leurs activités sans se retrouver sur le carreau, si je puis dire. Donc là encore, une fois de plus, tout dépend du système dont on parle.
À qui elles sont destinées ces 50 propositions ? Aux patrons, aux élus, aux citoyens ? À qui ?
Ah bah tout le monde, vous l'avez cité effectivement, les élus, les patrons effectivement, mais aussi finalement je dirais toute personne, si vous voulez, intéressée par ces différents enjeux liés à l'IA. L'objectif de ce document n'est pas de se plonger dans une doctrine universitaire compliquée, mais l'idée c'est vraiment de présenter les choses de manière accessible à tous, de telle manière à ce que chacun d'entre nous, en tant que citoyens aussi notamment, puissions nous pencher dessus et peut-être apporter aussi notre pierre à l'édifice dans d'autres discussions qui suivraient.
Éthique et IA, c'est deux domaines qui sont liés, je dirais même très liés, à vrai dire. Oui. Cependant, ça peut paraître peut-être un peu théorique. Vous définiriez comment les termes protéger qui, contre quoi, à quel coût ?
Bah, écoutez, je pense que lorsque l'on parle d'éthique, c'est effectivement très, très compliqué, d'autant plus que ce n'est pas non plus mon domaine de prédilection, mais à mon sens, on pourrait les définir comme tous les éléments qui, d'un point de vue humain, ou peut-être d'un point de vue moral, sont acceptables, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, je me réfère à une autre discussion qu'il y a eu dans le cadre de ces assises en 2025, la question de l'intégrité scientifique dans le cadre du recours à ces systèmes d'IA, eh bien là, il est bien évidemment moralement acceptable d'utiliser ces systèmes, non pas pour plagier, mais peut-être pour être plus efficace sur la rédaction d'un certain nombre de choses. Utiliser un outil de manière moralement acceptable, ici dans le sens où il ne faudrait pas être en violation des canons académiques, par exemple. Donc pour moi, c'est l'idée d'un outil éthique, d'une IA éthique, est une IA que l'on peut utiliser de manière moralement acceptable.
C'est quoi une IA éthique aujourd'hui ? C'est l'IA française, c'est Mistral par exemple ?
Tout système qui ne sont pas, si vous voulez, ne sont pas prônes à une utilisation controversée. Et le problème des LLM, c'est qu'ils sont effectivement très utiles, mais là encore, il faut faire très attention, comme vous le savez, notamment aux résultats que l'on peut obtenir.
Donc une IA qui n'est pas vouée à une utilisation controversée. J'ai l'impression qu'on parle un petit peu d'une licorne ou du Bigfoot, quoi. C'est quelque chose qui existe en théorie, mais personne ne l'a jamais vu.
Bah, c'est très difficile à mettre en pratique, je suis d'accord avec vous. Et même moi, je ne serais pas capable de vous donner un exemple précis, parce qu'il y a toujours des pour et contre pour chacun de ces systèmes.
Beaucoup d'acteurs signent des chartes, mais au final, l'IA avance quand même à vitesse grand V, due notamment à des milliards d'investissements de différentes personnes, ce qui fait des bulles économiques d'ailleurs. Qu'est-ce qui rend vos propositions contraignantes ou vérifiables, et surtout, est-ce qu'elles le sont ?
Contraignante, je dirais, tout dépend de la forme que ça prend. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a des chartes qui sont mises en avant. Et le problème, c'est qu'il y a certains de ces documents qui se résument à des pratiques de bonne conduite, dans d'autres cas de figure. Ou dans certains, on a un objet contraignant qui pourrait simplement être, par exemple, une sanction tout autre qui interviendrait en cas de violation de certains principes. Mais il est vrai que de ce que j'ai vu jusque-là, quelque part, on tâtonne un peu. Et il y a des choses qui ne sont pas surtout toujours aussi claires dans ce qui est écrit, d'où l'intérêt d'expliciter les choses davantage.
On tâtonne dans le cadre législatif, vous voulez dire ?
Oui, c'est ça.
Justement, on a un cadre européen à ce sujet, oui. Je pense à la RGPD. Ces oui. 50 propositions, elles complètent ce texte, elles peuvent compléter ce texte en tout cas, c'est cette vocation, ou plutôt au niveau national ?
Ça peut y contribuer au niveau national, bien évidemment, Et bon, je ne veux pas faire de pronostic, mais il se peut très bien que certains de ces éléments que nous avons ici au niveau national puissent largement contribuer au débat au niveau européen et faire évoluer les choses sur la base de ce qui a déjà été fait avant, effectivement.
Vous avez travaillé avec des élus ?
Non, pas moi. Pas moi à titre personnel.
Mais ce texte sera quand même, j'imagine, envoyé à des personnes en responsabilité.
Oui, tout à fait.
Vous avez un temps sur le programme marqué éthique et cybersécurité. Donc, on ne parle pas que d'intelligence artificielle, mais aussi de cybersécurité de façon plus globale.
C'est ça. Là, on est vraiment, si vous voulez, dans un thème qui concerne les technologies, le numérique, etc. Donc là, effectivement, on avait l'IA. Et au prochain programme, la cybersécurité, effectivement.
Pour les auditeurs, qu'est-ce qui va se passer exactement le 22 janvier ? Je veux dire, à quel horaire ? Pour qui ? Est-ce que tout le monde peut venir ?
Alors oui, c'est effectivement ouvert à tous. Donc pour rappel, l'événement doit commencer à 10h et se termine à midi. Donc dans un premier temps, après bon, peut-être une brève introduction, effectivement, des salutations et poser le décor, on entrera un peu plus dans la matière en revenant, comme je disais tout à l'heure, sur les premières assises, avec finalement une présentation du contexte, notamment avec Monsieur Raphaël Morel qui est un des acteurs clés, et ensuite poursuivre justement avec la présentation de ce livre blanc, à l'occasion duquel justement j'aurai l'occasion de m'exprimer, pour revenir finalement non seulement sur les différents thèmes qui ont été traités dans le cadre des différents ateliers, mais aussi pour chacun de ces ateliers et thèmes, des éléments centraux, des enjeux, des défis, et sur cette base ensuite, revenir sur quelques propositions, les propositions phares, si je reprends vos termes, qui ont été proposées pour chacun de ces thèmes, et terminer ensuite, pour clôturer finalement, sur une annonce de ce deuxième épisode, pardon, des assises sur la cybersécurité.
Tout un programme.
Exactement.
Je termine par une question un petit peu philosophique volontairement. Oui. Tout à l'heure, j'ai abordé la question de l'intelligence artificielle Grok qui déshabillait des femmes. J'aurais pu aborder d'autres questions. Hein. J'aurais pu aborder la question écologique. J'aurais pu aborder la question informationnelle. J'ai les fake news qui se diffusent. Ouais. J'ai reçu des artistes à ce studio qui me disaient que voilà, l'IA, quand elle crée du contenu, en fait, ne crée rien puisqu'elle envole, s'inspire de ce qu'il y a déjà sur Internet.
Oui, c'est ça.
Est-ce que en légiférant suffisamment, une IA éthique est possible?
C'est une excellente question.
Merci.
Alors, je n'ai bien évidemment pas de vision de l'avenir sur un terme très long, mais je peux dire en tout cas qu'à défaut de vous dire oui, à telle période, nous serons sûrs et certains d'avoir une IA éthique, je pense qu'il y a une chose dont on peut être à peu près sûr, c'est qu'on va tendre vers cet objectif. On n'y sera peut-être pas, peut-être dans 10-15 ans, je ne sais pas, on n'y sera pas, mais en tout cas, on tendra de plus en plus dans cet objectif-là. Je pense qu'on est sur une pente ascendante, si je puis dire.
L'optimisme est donc de mise. Merci, Dan Ibala, d'avoir répondu à mes questions.
Je vous remercie.
Je rappelle que la convention sur l'éthique et l'IA aura lieu le 22 janvier prochain à l'Incube. J'imagine qu'on peut retrouver les infos sur les réseaux sociaux, sur Internet ?
Absolument, absolument. Alors, vous pouvez retrouver sur le site de l'OEP, notamment, oui, de l'Observatoire de l'éthique publique.
Merci encore. Allez, CDLP, c'est fini pour aujourd'hui. La musique revient tout de suite sur BAC FM. Bon après-midi à tous.